L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 ans employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Il jette son bâton, enlève ses gants, il saute sur nous autres sans matière.
Il vous insulte?
Il insulte toute l'équipe!
Mais Dave était là.
Dave, c'est une terreur.
Ouais.
Dave, c'est un tueur.
Dave, il est magané.
Entrez dans le vestiaire. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Bienvenue dans le vestiaire en cette édition du jeudi 18 juillet 2024 pour les 60 prochaines minutes. Bien évidemment, on parlera de sport. On va parler entre autres de soccer avec Benoît Lavoie, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières, dans les derniers jours, les dernières heures, la Copa América, l'Euro, le CF Montréal qui était en action hier soir, on y reviendra un petit peu plus tard. Et également, la sélection provinciale qui va débuter la semaine prochaine ici à Saguenay. Ce sera quand même très intéressant de suivre tout ça. Question de baseball également avec Michel Bureau, match des étoiles. On est dans la deuxième partie, ça va débuter ce soir, deuxième portion de la saison dans le baseball majeur. Il y a le Junior Elite également, il y a la Ligue Frontière avec les Capitales, le match des étoiles qui avait lieu hier du côté du stade Canac de Québec. Et également, on va parler de golf parce que aujourd'hui, depuis midi, c'était le traditionnel tournoi de golf des voyageurs de Jonquière de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ça fait, je pense, 3 ou 4 ans qu'on a reparti cette tradition du tournoi de golf qui invite joueurs, partisans, également entrepreneurs, en fait, les entreprises, les gens qui encouragent les voyageurs, les commanditaires à se réunir pour une journée pour aller jouer sur le terrain du club de golf Arvida, le club de golf Saguenay. Tout un petit peu plus tard, dans une dizaine de minutes, on ira rejoindre Stéphane Maltais, qui est le directeur par intérim du club de golf Arvida, qui va nous parler, bon, du tournoi d'aujourd'hui, mais également des autres tournois qui s'en viennent d'ici la fin de la saison, tournois sociaux et des tournois un peu plus importants. Beaucoup d'activités, évidemment, dans le monde du sport aujourd'hui, et on parle de soccer, hein, le CF Montréal qui, hier, a connu quand même une bonne rencontre. C'était surtout pour les couches-tard parce qu'il y a eu quand même une pause d'1h45 entre les deux demi en raison de la température. La pluie, les orages qui ont tombé du côté de New York ont fait retarder la deuxième demi de la rencontre entre le CF et le Red Bull de New York. Finalement, c'est soldé par un verdict nul de 2-2. Enfin, le CF Montréal qui a rebondi dans le match deux fois plutôt qu'une. C'était 1-0 pour le Red Bull. Le CF a créé l'égalité grâce à Martinez. Le Red Bull a remarqué encore une fois. Le CF, encore une fois, grâce à Martinez, a créé l'égalité et le match s'est terminé 2-2. Ce qui fait en sorte que ce matin et c'est aujourd'hui, en fait, pour la journée, on se retrouve avec le CF Montréal qui est en, pas dire en bonne position, mais est en position pour participer aux éliminatoires. Le classement qui est extrêmement serré, calendrier de 34 rencontres qui avance. On est rendu là, il reste environ une dizaine de matchs. Ce sont les 10 premières équipes qui participent aux séries. Il y a un match spécial qui va se faire entre l'équipe 9 et 10. Ben, actuellement, le CF Montréal est 9e et pourrait s'approcher de la 8e place ce samedi, alors qu'ils vont recevoir au stade Saputo le Toronto FC. Toronto FC qui est à 27 points au 8e rang. Montréal est à 27 points au 9e rang. Et ben devant, là, il y a un petit peu plus de distance. Orlando est 7e à 33, mais derrière, Nashville est à 26, DC United à 26, Atlanta United à 25, Chicago est à 25 et l'Union de Philadelphie est à 24. Donc 3 points et on descend de la 9e à peut-être la 14e position. Donc chaque match est important pour le CF Montréal. Et là, ben, ils sont sur une bonne séquence de 3 matchs sans défaite. On est allé chercher des points, une victoire, 2 verdicts nuls. On a maintenant un dossier de 6, 9 et 9. Et ben, pour Toronto, ben, c'est un dossier de 8, 14 et 3. Donc, 14 défaites depuis le début de l'année. Ça va un petit peu mieux pour Toronto parce que les dernières saisons étaient quand même un peu difficiles. Mais on devra profiter de l'avantage du terrain parce que Toronto n'a que 2 victoires, tout comme le CF Montréal n'a que 2 victoires sur les terrains adverses depuis le début de la saison. 3 défaites et 8 verdicts nuls. Montréal, ça va quand même assez bien à domicile. 4 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Alors, ce sera, on dit, un match de 4 points au niveau du soccer. En fait, du hockey, bien là, c'est un match de 6 points au niveau du soccer parce qu'une victoire qui va amener 3 points permettrait soit à Toronto, soit à Montréal de s'installer au 8e rang et de devancer là, un peu les équipes qui les suivent de très près derrière. Et tout ça avec 10 matchs à jouer. Il reste 10 matchs à jouer au CF de Montréal d'ici la fin de la saison. Donc, chaque match va être important. Autre statistique qu'on a appris avec la fin de l'Euro, avec la fin de la Copa América, on a refait un peu le classement pour les équipes mondiales et l'Argentine. Vainqueur de la Copa América, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, eh bien, conserve sa première place au classement. Devant la France qui est deuxième, qui était demi-finaliste à l'Euro 2024. Donc, ça va bien quand même pour l'Argentine et Lionel Messi. Pour ce qui est de la Colombie, qui intègre le top 10, eux, ça va bien, la Colombie qui monte au 9e rang. Donc, c'est malgré tout, c'est ça quand même spécial. On dit, l'Espagne a gagné, pourquoi ils ne sont pas deuxième? Je ne sais pas, on a décidé que la France demeurait tout de même au 2e rang. L'Espagne, eux, montent sur la place du podium, donc avec la 3e position, et délogent la Belgique qui ont été éliminée en 8e de finale par la France. L'Angleterre, qui est finaliste à l'Euro, est en 4e position. Puis là, il y a eu des percées quand même spectaculaires qui ont été réalisées par la Turquie, qui sont rendues en quart de finale de l'Euro, gagne 16 places, se retrouve 26e. Le Venezuela, qui est également quart de finale à la Copa América, gagne 17e rang et se retrouve 37e. Pour ce qui est du Canada, on est où? Ben, on a gagné 8 positions. On se classe maintenant 40e. C'est quand même intéressant donc d'être dans les 50 premiers toujours et de monter au classement. On a montré quand même de belles choses lors des dernières Coupes du Monde et j'ai bien hâte de les voir au niveau des Olympiques qui s'en viennent, surtout au niveau des femmes alors qu'ils sont championnes du monde. On parle un peu de hockey. Pas une grande nouvelle aujourd'hui, mais une nouvelle qui va intéresser évidemment notre collègue Yves Bolduc, son neveu, son filleul Maxime Comtois, qui, après avoir évolué avec les Wolves de Chicago dans la Ligue américaine, après un essai professionnel avec les Golden Knights lors du camp d'entraînement de l'an dernier, il a quand même joué 45 matchs avec les Wolves, décide d'abandonner le hockey nord-américain et se transporte du côté de la KHL, où il va poursuivre sa carrière professionnelle en Russie avec le Dynamo de Moscou. Va rejoindre un autre Québécois, un ancien du Canadien, Cédric Paquette. Jordan Wheel, qui est un ancien du Canadien, joue également avec cette formation. On sait qu'en mars, il avait convaincu les Hurricanes de la Caroline de lui offrir un contrat à 2 volets pour le reste de l'année. Il avait joué un match avec les Hurricanes. Comtois, on se souvient, est un choix de 2e ronde des Ducks en 2019. Compte 211 matchs dans la Ligue nationale, 87 points. Et Il y a eu une petite descente du côté de Maxime Comtois. Souvenez-vous, lors de la saison écourtée par la COVID, il avait fini meilleur marqueur des Ducks. Et après ça, on dirait qu'il a comme perdu ses repères et ça a été très difficile de retrouver l'air d'aller qu'il avait par la suite. Donc, pour Maxime Comtois, va poursuivre sa carrière du côté de Moscou. Et c'est fin de semaine de Grand Prix. Hein, ça s'en vient à la poche du Grand Prix de Hongrie. C'était un secret de polichinelle, mais là, c'est maintenant confirmé. Le pilote danois, Kevin Magnussen, qui est âgé de 31 ans, va quitter l'écurie Haas à la fin de la saison. Alors, il abandonnera son siège à l'issue de son contrat. Magnussen, qui va achever en décembre prochain sa 7e saison au sein de l'écurie qui a été créée par l'homme d'affaires américain Gene Haas en 2016. Il a été là de 2017 à 2020 et de retour de 2022 à 2024. Il a disputé 135 Grands Prix avec Haas, obtenu donc pour meilleur résultat, 2 cinquièmes places à Bahreïn et en Autriche en 2018, où il a terminé quand même 9e du championnat des pilotes. Et avec le départ de Nico Hülkenberg qui va rejoindre Sauber Audi, ben Haas va disposer donc en 2025 d'un duo de pilotes complètement renouvelé. On a déjà officialisé l'arrivée de Oliver Bearman, 19 ans, qui dispute le championnat de Formule 2 cette année. Et on dit que le Français Esteban Ocon, qui est actuellement chez Alpine, pourrait faire le saut. Il pourrait remplacer Hülkenberg chez Haas la saison prochaine. On en parlera de toute façon demain dans le vestiaire avec Jean-Michel Tremblay. On va à la pause dans quelques instants. Bien, on va parler de golf. D'ailleurs, la première ronde de l'Omnium britannique a débuté aujourd'hui. Intéressant de voir Tiger Woods sur le terrain du Royal Troon Golf à Troon dans le South Ayrshire en Écosse. Toujours impressionnant de voir ce qui se passe là-bas. Le terrain et la beauté du paysage. Ça a commencé quand même en force là, aujourd'hui de cette 152e édition de l'Omnium britannique où l'Américain Justin Thomas a donné le ton en s'installant rapidement au sommet du classement par les joueurs qui s'élançaient en matinée, où il a remis une carte de 68, moins 3 pour s'installer seul au sommet du classement. Il y a Rory McIlroy qui est là également, qui fait partie des premiers golfeurs qui a pris part. Donc, on vous donnera évidemment les détails un petit peu plus tard. Donc, dans quelques instants, on parle de golf, mais on parle de golf régional avec Stéphane Maltais.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Le 8 août prochain, ce sera la grande ouverture du métro Thibault, anciennement métro Sagami, dans sa toute nouvelle bâtisse. On engage. Viens porter ton CV maintenant. Le métro Thibault ouvrira ses portes le 8 août prochain. On vous attend.
Entrez, c'est ouvert.
Hein, wow, tabarouette, Jimmy Girard de chez Hyundai du Saguenay, mon bon ami, qu'est-ce que tu fais par ici?
André, je passais dans le coin et il fallait absolument que je te transmette la superbe nouvelle, toi qui connais tout le monde.
OK, assis-toi, là, fais comme chez vous, puis dis-moi ce qu'il y a là.
Hyundai du Saguenay va recevoir plus de 88 véhicules 100% électriques de Ioniq 5 et Ioniq 6 pour pouvoir bénéficier de la subvention de 12 000 $.
Hey, la Ioniq, là, c'est pas celle-là qui a gagné le prix de voiture mondiale de l'année?
Exactement, et en appliquant la subvention à la location, elle vous est offerte à 120 $ par semaine, 0 $ de comptant, 48 mois à la location.
Hey, c'est pas compliqué, là. Ça signifie plus d'essence, plus jamais, à 120 $ par semaine. Aïe, aïe, aïe!
VUS ou encore berline luxueuse, venez faire votre choix chez Hyundai du Saguenay, boulevard René-Lévesque, Jonquière.
Chez Tôle du Royaume, nous avons les meilleurs prix parce que nous sommes les seuls à fabriquer du revêtement d'acier dans la région. Exemple, besoin de revêtement d'acier pour toiture et murs extérieurs, 4 couleurs de disponibles, feuilles de 8 pieds, à 36 $ ou 1 $50 du pied carré. Économisez de l'argent. Achetez du fabricant. Tôle du Royaume, 1200 boulevard du Royaume, voisin du centre de liquidation du travail.
On parle golf.
Première entrevue pour aujourd'hui, bien, on parle golf, étant donné qu'aujourd'hui, en plus, c'est le tournoi de golf des voyageurs de Jonquière au club Saguenay-Arvida. Bien, on va parler avec le directeur par intérim, Stéphane Maltais, avec qui on jase depuis déjà quelques semaines. Salut Stéphane.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. La température qui joue des siennes au cours des derniers jours, hier, vous avez été obligé en plein milieu d'après-midi de fermer le terrain. C'était pas vraiment les orages en tant que tels, mais c'est le fait que l'accumulation d'eau, dans un moment quand même assez rapide, fait en sorte que le terrain, il respire pas, là.
C'est effectivement, c'était pratiquement un record, là. D'accumulation en si peu de temps, c'était impressionnant. Il y avait de l'eau partout sur le terrain hier, si bien qu'on était inquiet pour la journée d'aujourd'hui. On s'est vraiment demandé, là, j'étais avec Patrice, le surintendant, puis on s'est dit, OK, c'est réglé, là, faut fermer ça pour le restant de la journée, mais on va-tu être correct demain? Et finalement, le terrain, bon, ça draine quand même très bien ici, là. On est correct. C'est sûr qu'il reste un petit peu d'accumulation à certains endroits. Il va falloir être très prudent, les golfeurs, les voyageurs aujourd'hui, mais on est chanceux, les voitures électriques sont sur le terrain. C'est assez incroyable à quel point ça presque disparu partout.
Il n'aurait pas fallu qu'il tombe une grosse averse du même style au cours de la nuit, disons.
Non, ouais, non, effectivement, là, Dominique, c'est un très bon point. C'est ce qu'on avait peur. On avait peur que ça retombe, là, mais on était. C'est ce qui nous a sauvés.
Heureusement, bon, depuis le début de l'été, on a quand même une très belle saison. Oui, il y a des averses ici et là, mais je pense qu'on n'a pas eu vraiment de journée où on a dû complètement annuler la période de golf.
Oui, effectivement. C'est les golfeurs assidus peuvent pratiquement jouer tous les jours. Là, un membre là, qui le souhaite là, depuis le mois de juin, qui souhaite jouer tous les jours, n'a pas manqué beaucoup de journées. Puis oui, effectivement, de temps en temps, comme hier, faut écourter la ronde. Ça fait effectivement, c'est un été très chaud, très humide, puis oui, des orages, mais les journées de pluie, parce qu'on a complètement perdu là, toutes les plages horaires, toute la journée, c'est effectivement. Non, c'est il y en a eu il y en a un petit peu au mois de mai, là, mais effectivement, là, ça se passe. On est très chanceux de ce côté-là.
La saison avance à grands pas. On est déjà le 18 juillet. Bon, tournoi des voyageurs aujourd'hui. Mais dans les prochaines semaines, là, au niveau des tournois, disons, sociaux, qu'est-ce qui s'en vient au club de golf Saguenay?
Bien, en termes de gros tournois, le mois de juillet, là, oui, effectivement, les voyageurs aujourd'hui, après ça, ça tombe plus tranquille. Ça repart en force à partir de la mi-août. Là, on a le tournoi de la Fondation Équilibre le 15 août. On a le Marc Saint-Gelais, notre gros tournoi à l'argent, le 17 août. Après ça, on a le gros Coram, le 22 août. On a d'autres. Là, après, ça continue jusqu'en septembre. Là. C'est vraiment les semaines de la construction. Là. Le monde arrête de tourner un peu. Là. Dans ce qui est du monde du golf, on va avoir beaucoup de golfeurs, mais on n'aura pas de gros tournoi. Puis c'est comme ça, là, la première de août, ça repart tranquille. Il y a Georges Abraham, le 7 août, là, qui a lieu au club de Scoutini, mais qui est quand même le gros tournoi à l'argent. C'est ce qui repart un peu le bas des tournois. Là. Après ça, nous autres, on va avoir notre championnat du club aussi le 10-11 août. Donc, ouais, le mois d'août, ça va être assez achalandé.
Et sans oublier ben, le tournoi qui est également parrainé par Raphaël Harvey-Pinard qui s'en vient un peu plus tard dans la saison?
Effectivement, le tournoi, la classique à RHP, va être le 29 août cette année. On est déjà là, dans les préparatifs très avancés. Là. Ça se passe très bien. Les commentateurs sont au rendez-vous. Ça va être une grosse édition cette année. Encore un petit peu plus de golfeurs. Encore un petit peu plus de commandites. Donc, on va être capable de donner de l'argent là, pour les bonnes causes. Ça va être une grosse édition cette année.
Moi, je trouve ça tout le temps spécial lorsqu'il y a des tournois de la sorte où on ramasse des fonds pour des organismes, des tournois, bon, on appelle de type sociaux. Comment on remplit des foursomes. Des fois, on est à... il y a 18 trous, mais ben, on est 36 équipes. Ça veut dire qu'il y a deux équipes à chaque trou qui partent en même temps et qui font le tour du terrain. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Oui, effectivement. Dans le cas de la classique RHP à date, ça va dépasser 160 joueurs. Là.
Wow.
Ça va être très, très, très cordé sur le terrain. Coram ont une formule assez spéciale. Eux, ils font un croisé. Là. Coram, cette année, je m'attends là, à 230-240 golfeurs. C'est une autre formule, mais oui, c'est impressionnant à quel point ils sont capables d'amener tous ces gens d'affaires-là ou tous ces commanditaires-là sur le terrain. Effectivement, ça fait des grosses journées.
En croisé, comment ça fonctionne?
Ben, en croisé, ils prennent le terrain au complet pour toute la journée. Donc, ils partent là... comme justement à Coram, ils vont partir de 7h à 9h. Okay. Après ça, il y a un autre départ de 11h30 à 1h30. C'est vraiment le terrain est vraiment là, réservé à eux pour la journée.
Parce que quand on a un tournoi comme celui des voyageurs aujourd'hui, on appelle ça la formule shotgun. C'est que tout le monde, deux équipes partent du premier, du deuxième, du troisième, de tous les trous, puis on passe en même temps.
Oui, exactement. Comme présentement, il y avait le shotgun de 7h30 là, qui sont sur le terrain, le shotgun des membres et des visiteurs. Puis les gens reviennent. Après ça, on place les voiturettes puis on donne le départ à 12h30 pour le tournoi.
Stéphane, on te parle depuis déjà quelques semaines parce que, bon, on sait que tu as repris l'intérim du côté de la direction du club de golf Saguenay après le départ de Sébastien Dion. Explique-nous un peu les raisons pourquoi tu l'as repris parce que tu as déjà été à la direction. Qu'est-ce qui t'a amené l'intérêt de reprendre les rênes?
Oui, ben c'est ça. J'ai encore la boutique, je suis encore propriétaire de la boutique. Donc, dans les deux dernières années, c'était ça mon rôle. Donc, j'étais déjà au club. Avec la boutique, ben ces temps-ci, on est plus dans le dans le roulement, là, je suis un petit peu moins dans les commandes spéciales ou dans les inventaires. Ça roule quand même bien. Fait que j'estime avoir le temps de donner un coup de main au club parce que c'est pas vraiment ça. Là. Bon, Sébastien a accepté un nouveau défi. Le conseil d'administration m'a approché pour le temps de survivre et de bord un peu, d'ouvrir la job. Donc, je l'ai accepté parce que j'ai quand même fait ça longtemps. Je tiens à être capable de remplir le rôle. Je ne veux pas dire assez facilement parce que ça reste quand même exigeant. Là. Mais bon, je pense que c'était la meilleure option pour le club. Puis moi, j'avais du temps. Donc, j'ai accepté de prendre ce petit défi-là là, temporairement. Puis là, ben, on a la date, là, on a ouvert l'emploi lundi. Donc, j'imagine là, dans les 4 à 6 prochaines semaines, là, on va devoir avoir quelqu'un là, en poste.
Parle-nous un peu de la boutique. À chaque fois qu'on entre là, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a tellement de beaux spécimens, des bons, les balles de golf, des bâtons, les vêtements et tout ça. Comment ça fonctionne un peu l'achat? Tu magasines à travers les entreprises puis tu achètes ce qui t'intéresse?
Oui, ben justement, ce matin, là, je complétais mon inscription là, pour le on est dans un, ben je dis on, là, bref, moi je suis dans un regroupement d'achats avec beaucoup de clubs de pros de golf, là, puis beaucoup de clubs de golf au Québec, même en Ontario. C'est un gros regroupement. On a notre salon d'achat qui est en octobre, donc on se rejoint tous là, les fournisseurs, les acheteurs, en fait. Là. Donc c'est vraiment un gros salon comme on les connaît là, comme différents autres salons. Là. Et c'est là qu'on prépare nos planifications, qu'on fait nos achats pour l'année suivante. Et là, c'est plus facile parce que les compagnies sont toutes regroupées. On est capable de condenser nos achats dépendamment des acheteurs. Là, mais moi, comme moi, là, ça me prend 2 jours complets. Donc, c'est facile. On a le matériel sous nos yeux. Les compagnies sont prêtes, là, sont là pour ça. Il y a des compagnies qui ont des très gros kiosques. On est capable vraiment de voir la nouvelle marchandise qui s'en vient. Ça simplifie énormément le processus d'achat. Oui. Parce que sinon, là, si on y allait à la pièce... ce serait compliqué là, de des achats quand c'est pas groupé. Là. Mais c'est ça, donc la question est bonne. C'est drôle que je me fasse poser la question ce matin, là, justement, là, vu que je complétais la inscription. Mais dans mon cas, puis j'ai le cas de plusieurs, il y a beaucoup de boutiques de pro de golf, de clubs de golf qui sont dans ce regroupement-là. Ça simplifie énormément pour la raison du salon, mais il y a d'autres raisons aussi, là, mais ça simplifie exactement. Ça nous simplifie la vie, puis on est capable de maximiser nos achats, nos prix d'achat aussi. Là, donc, c'est vraiment un beau regroupement.
Stéphane Maltais, merci beaucoup de nous avoir parlé encore une fois aujourd'hui de golf. On profite de l'été, on profite du beau temps pour prendre de l'air, faire du sport et de faire du social également. Quand même le dire, là, le golf, oui, on frappe des balles et tout, mais on jase énormément, on rencontre des gens, le social est quand même assez important.
Effectivement, puis du social après la terrasse, sur la terrasse,
oui.
c'est toujours gagnant.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
Alors, Stéphane Maltais du club de golf Saguenay-Arvida, où se déroulait aujourd'hui le tournoi de golf des voyageurs de Jonquière, le 92.5 qui participait. Il y en a un autre où le 92.5 va participer dans les prochaines semaines. C'est celui des Marquis de Jonquière. Encore une fois, le 92.5 sera la radio officielle des Marquis de Jonquière. Ce sera le mercredi 21 août prochain et on aura là, le privilège d'être présent encore une fois. On va à la pause. Dans quelques instants, on va parler de soccer avec Benoît Lavoie. L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez...
Tu fais de la mécanique en soirée ou le week-end, peu importe le moment, Pièces d'Auto Sainte-Geneviève, c'est le seul ouvert 7 jours sur 7 et jusqu'à 21h en semaine. Pièces d'Auto Sainte-Geneviève, Alma, Jonquière, Chicoutimi-Nord et Labbé.
Entendre mieux, ça change tout. Écoutez bien ce son. Vous ne l'avez pas entendu? Communiquez sans plus attendre avec le groupe Forget Audioprothésiste pour un dépistage auditif sans frais.
Bonne nouvelle, vous êtes en vacances? Pas de souci, le resto Salé Sucré ne prend pas de vacances et est ouvert durant toutes les vacances de la construction. On est ouvert et on vous attend, le resto Salé Sucré, 1958 rue Davis, secteur Arvida. Que c'est bon!
On parle de soccer.
Oui, allô?
Salut Benoît, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va très bien. Donc, on va revenir sur la finale Copa América, l'Euro.
Oui.
Après ça, ben le match du CF hier.
Oui, puis le tournoi des sélections qui s'en vient la semaine prochaine, là, oui. À Saguenay. Là.
Parfait, excellent. Je pense qu'on va être capable de faire un 12-15 minutes avec ça.
Parfait, good.
OK, excellent. Donc, on commence ça dans 3, 2, 1... On est dans la période du soccer et on est vraiment dans le crunch. Là. L'approche des Jeux olympiques qui seront intéressants à suivre, évidemment, avec la formation canadienne, surtout au niveau féminin. Hein. Les championnes du monde ont une médaille d'or à défendre. Mais là, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les derniers jours avec notre expert Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Salut, Benoît.
Salut, Dom.
On va commencer par la Copa América. Sans surprise, l'Argentine qui a été sacrée championne, déjà championne du monde, championne de la Copa América. Ça n'a pas été facile, par contre, et il y en a qui sont sortis un peu maganés de ça, et c'est le cas du meilleur joueur au monde, Lionel Messi.
Oui, ah oui, ça n'a pas été si facile que ça pour l'Argentine, puis on sait qu'on a notre équipe nationale, notre sélection, a joué deux matchs contre les Argentins quand même, en match d'ouverture et en match de demi-finale, deux matchs de 2-0. Je crois que notre sélection s'est très bien tirée d'affaire dans ces deux rendez-vous-là. Mais oui, l'Argentine était quand même la grande sélection favorite de la compétition. Mais il faut quand même souligner la super performance des Colombiens qui avaient une série, une séquence de matchs en défaite. Là, je crois qu'ils étaient quand même assez élevés, une vingtaine au-dessus de 20 matchs, je crois. Donc oui, bravo. On a vu que la sélection argentine avait de la profondeur sans Messi. On a quand même vu d'hommes un peu quand Messi était sur le banc, là, quand il a enlevé son soulier.
Oui.
Il y avait quand même une bonne enflure au niveau de la cheville. C'était pas du fakeage, là, comme des fois on peut voir certains joueurs qui reçoivent des coups sur le jeu, qui essaient de déjouer l'arbitre avec de la simulation. C'est un petit peu décevant de voir ça, mais ben, c'est même très décevant là, quand on voit que c'est de la simulation. Mais souvent, il y a des contacts sévères, et puis on l'a vu sur Messi. Là, à un moment donné, il est resté en jeu, mais je pensais que c'était comme un claquage à un moment donné. Il a essayé un jeu, là, puis il a débarqué de l'action à ce moment-là. Mais en tout cas, écoute, victoire de l'Argentine. Ce qu'il faut savoir, Dom, c'est qu'il va y avoir un match. Hein. Ça s'est fait après le dernier Euro. Le champion de l'Euro, il va y avoir un match contre le champion de la Copa América. Donc, on va avoir un beau rendez-vous. Je pense que ça va être à l'automne prochain.
Oh.
Ça veut dire qu'on va avoir un match entre l'Argentine et l'Espagne. On appelle ça la finale. Finalissima, je ne sais pas trop, là, on a appelé ça comme ça. Donc, on fait un match entre les deux équipes championnes de la Copa América et de l'Euro. Ça s'est fait, là. L'Argentine avait gagné contre l'Italie, je crois, 4-1 ou 3-0, là, le match en 2021 en 2021, là,
oui. Bien, du côté de l'Espagne, c'est un quatrième titre également pour ce qui est de l'Euro. Ils ont battu l'Angleterre. Puis chose quand même surprenante qu'on a vue dans cette rencontre-là, un joueur de 16 ans qui performe au niveau mondial de la sorte, c'est quand même assez spécial.
Oui, Lamine Yamal, très, très impressionnant, surtout contre la France. On va se rappeler de son but. Puis encore en finale, je crois qu'il a une passe décisive là, sur un des deux buts de l'Espagne. Mais je crois que dans l'Euro, c'était un peu le même principe que de l'autre côté de la Copa América. L'Espagne a démontré du super jeu tout au long de la compétition. Ils ont mérité leur titre, quoique ça aurait été intéressant de voir l'Angleterre aussi. À Espace Soccer, écoute, c'était bondé dimanche après-midi, malgré la super température.
Oui.
C'était vraiment un beau moment aussi. Donc, une belle victoire des Espagnols. Et puis, plus la compétition avançait, plus on se disait, oh, wow, c'est la plus belle équipe qui est à voir, qui est à regarder. Puis, ils ont mérité leur titre. Puis, écoute, bravo à l'Espagne. Viva España. Moi, j'ai fait jouer la tune Viva España à Espace Soccer. Et il y avait une belle ambiance là, après la finale. Là.
Excellent. Donc, ben, bravo à l'Espagne. Puis, écoute, tu as mentionné le match entre l'Espagne et l'Argentine. Je trouve ça quand même très intéressant qu'on puisse ramener les deux champions des deux grands tournois pour un affrontement. Parce que, veux pas, même si on dit, bon, l'Europe et le continent un peu du soccer, faut quand même pas épargner les Amériques et l'Amérique du Sud, et surtout l'Argentine, là, sont quand même les champions du monde.
Ben, je pense que c'est les deux plus gros continents au niveau du soccer mondial, et le plus de niveau, si tu veux, quand on regarde dans les grandes compétitions internationales, ce sont souvent eux qui se retrouvent, soit les Européens, soit les Sud-Américains, dans les quarts, dans les huitièmes de finale, demi-finale. Donc, quand on regarde les palmarès puis les différents tableaux à chaque année, à chaque compétition, c'est toujours, puis quand on regarde, c'est pas mal toujours les mêmes nations qui sont là, hein, l'Espagne, du côté de l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Italie, ben, ça dépend des coupes. Cette année, c'était plus difficile. Un peu le Portugal, l'Allemagne. Du côté de la Sud-Amérique du Sud, ben, l'Argentine, le Brésil. Souvent, on va voir l'Uruguay, on va voir aussi la Colombie. Donc, c'est souvent ces équipes-là qui se retrouvent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que notre sélection nationale masculine est en train de bien se préparer pour 2026. Moi, ce que j'ai bien aimé, là, la sélection, on a vu Jesse Marsh qui est venu cette semaine à Montréal faire une petite rencontre avec les journalistes, rencontrer la presse montréalaise. La question lui a été posée à Jesse Marsh sur l'utilisation de Samuel Piette. Moi, j'étais bien déçu de ne pas voir. Oui, on a vu Mathieu Chouanière qui a bien fait, Maxime Crépeau qui a été un des meilleurs gardiens de la compétition. Mais moi, ma grande déception, ça n'a pas été de voir utiliser Samuel Piette. Au moins un 15-20 minutes. On a joué 6 matchs d'hommes, 6 matchs. On ne va pas croire qu'il n'y a pas eu un moment pour dans son style de jeu à lui.
C'est vrai.
Qu'il n'y a pas eu un 10-15 minutes pour lui. Puis ça a été pareil à la Coupe du Monde, on se rappelle, en 2022. Là.
Absolument, absolument. Tu as 100% raison là-dessus. C'est très dommage qu'on n'ait pas vu Samuel Piette de ce côté-là. Puis tu parlais du Canada, de l'amélioration du Canada. Bien, c'est des cycles. Hein? D'un côté, on voit le Canada remonter au classement. Puis de l'autre côté, on voit l'Italie que, oh, colline, que c'est pas facile. Hein? Tellement que ça a été une des grandes nations au niveau du soccer que depuis un petit bout de temps, oh boy, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident pour l'Italie. Puis écoute, quand tu regardes aussi le parcours des Bleus de la France, c'est moi, la sport soccer, les deux nations qui ont attiré du monde pas mal pendant la Coupe, pendant le mois, c'était la France, à cause qu'il y a beaucoup de Français allemands. Puis les gens se sont attachés longtemps avec la France, de par nos cousins français, là, comme on dit. Mais là, l'équipe nationale canadienne est en train de monter, nous montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Donc, le Canada et la France ont été les deux sélections qui ont eu beaucoup de monde, qui ont attiré, en tout cas. Mais la France aussi, on parle de l'Italie, mais la France n'a pas démontré du super jeu pendant l'Euro. Oui, on gagne, mais c'est tout. Puis ils sont très, très critiqués au niveau en France sur leur jeu en tant que tel, la beauté de leur jeu, la qualité de leur jeu. On regarde Mbappé. On a vu Mbappé cette semaine, justement, qui a été présenté au stade à Madrid. Il y a eu 80 000 personnes d'hommes pour faire la présentation, l'arrivée de Mbappé.
Wow.
C'est sûr qu'il n'est pas arrivé en grand king parce qu'il n'a pas connu nécessairement un grand euro. Mais je veux dire, on va se rappeler du match contre l'Espagne en fin de match. Il a eu la balle au pied pour mettre ça 2-2. Et c'est dans une zone où ce que Mbappé va la mettre dedans 9 fois sur 10. Il a manqué son tir, il l'a envoyé au-dessus de la cage, mais je veux dire, il aurait pu la mettre dedans. C'est pas arrivé. Donc, c'est pour ça que je pense que Deschamps, l'entraîneur, le sélectionneur de la France, aurait pu dire, OK, moi, je tourne la page et je laisse la place à un gars comme Zidane pour rafraîchir un peu la sélection française. En tout cas, on a hâte de voir le futur de tout ça pour 2026. Ça ne veut pas dire que Deschamps n'a pas fait du beau travail. Là. Il a gagné la Coupe du Monde, a perdu en finale, deux finales, une finale de l'Euro, une demi-finale. Mais la qualité du jeu manque, à mon avis, avec la qualité des joueurs qu'on a là.
On parle maintenant du CF Montréal, Benoît. Quand même un gros blitz là, avec le retour de certains joueurs, ça va faire du bien. Mais 3 matchs en 8 jours, belle victoire en fin de semaine, un gros 3 points. Puis ça s'est poursuivi hier avec un 3e match de suite sans défaite. Un match nul contre le Red Bull de New York. Et c'est pas évident de gagner au Red Bull Arena là-bas. Là. Écoute, je pense que c'est le Red Bull n'avait pas perdu depuis le début de la saison. C'est encore le cas. Un match nul de 2-2. Mais là, ce que j'ai aimé du côté du CF, c'est que, bon, oui, on a commencé le match de bonne façon, mais on l'a fini de bonne façon, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il y avait toujours un relâchement. Là, on est revenu 2 fois derrière pour aller chercher un match nul.
Oui, t'as entièrement raison, Dom. Première demi plus difficile un peu hier. On a vu le retour de nos trois joueurs avec la sélection. Piette, Choignet, Waterman, qui étaient dans le 11 partant. Ça, c'était intéressant de voir ça. Écoute, comme on a mentionné, Piette n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc il était quand même frais. Oui. Il s'est entraîné pendant toute la séquence avec la sélection canadienne. Choignet a eu un peu de temps de jeu contre l'Uruguay. Il a fait une super performance, donc on a des chances, là. Qu'est-ce qui va se passer avec le dossier Chouinard? On n'en a pas parlé encore, mais est-ce qu'il va rester avec le club? C'est déjà des discussions qu'on voit, là, est-ce que ça va se régler, ce dossier-là. Et Waterman est revenu aussi en défense. Donc, trois matchs en défaite de consécutifs. On est revenu, deux matchs de Martinez hier, qui est embarqué quand même à la deuxième mi-temps. Deux buts, c'est-à-dire deux buts de Martinez. Donc, on se retrouve en neuvième place, égalité avec Toronto en huitième. Donc là, on joue là pour ça va être bon de voir la fin de saison. On sait qu'on joue contre Toronto en fin de semaine, à Montréal. En passant, c'est en fin de semaine que notre gagnant, notre collaboration avec CKJ puis dans le vestiaire, notre émission et Espace Soccer, c'est là que notre gagnant va être au match à Montréal en fin de semaine.
Hey, on pouvait pas demander mieux d'avoir un match, évidemment, contre Toronto, qui est une belle rivalité. Puis que les deux équipes sont égales en ce moment au classement et se battent pour une place en série. C'est un véritable... T'as un match de 4 points, là, c'est un match de 6 points au soccer.
Oui, puis quand tu regardes ça, Toronto, faut pas trop l'échapper. C'est un match important, là, parce que quand tu regardes en bas du classement, tu vois, on a souvent tendance à regarder en haut. Là, on a 6 points derrière Orlando, qui est 7e, donc on est à 6 points. Mais quand tu regardes en bas, là... Nous, on a 27 points. Nashville, 26. DC United, 26. Atlanta, 25. Et Chicago Fire, 25. Hey. C'est très serré entre la 8e et la 14e place. Là, on parle de 3 points de différence.
C'est énorme.
Ça va être une fin de saison assez intéressante là, pour les séries éliminatoires. Puis le plan de match du CF, c'est de se rendre au moins en séries éliminatoires. Oui. Pour après ça, on verra qu'est-ce qui se passera. Mais au moins se rendre là. On a déjà manqué de peu l'année passée. Là.
Absolument. Benoît, on va terminer avec ce qui s'en vient ici. Grosse semaine à compter du week-end et du début de la semaine prochaine jusqu'au 27 juillet. Saguenay qui sera l'hôte de l'édition 2024 du tournoi des sélections régionales. Explique-nous un peu c'est quoi les sélections régionales.
Bien, c'est toutes les meilleures jeunes du Québec, des catégories U13, U14, U14 ans, masculin, féminin. Il y a des équipes qui ont été invitées. J'ai pu voir ça dans le calendrier. J'ai posé des questions un petit peu pour être certain de mon affaire, pas dire n'importe quoi. On a trois équipes de la région. On a une équipe qui sera invitée, qui sera là aussi. Donc, deux équipes masculines, une équipe féminine. Ça commence lundi prochain. Donc, l'horaire, c'est déjà, je ne sais pas si avec... les organisateurs de la compétition, si avec vous autres, avec Michel et Dom, avec toi, il va y avoir des petites capsules
On va en parler toute la semaine, ça c'est sûr.
Bon, c'est intéressant. Donc 22 juillet, ça commence. Il y a déjà des matchs qui vont se faire. Là, je sais qu'à 17h45, en U14 féminin, l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va être au cégep de Jonquière, va affronter le Sud-Ouest, la région du Sud-Ouest. Et par la suite, il va y avoir un autre match par la suite à 19h30 à U14 masculin. On parle encore du 22 juillet contre l'Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, pour ce qui est l'organisation du tournoi, je crois que le premier match est important par rapport au classement. Probablement que des gens de la compétition vont venir vous en parler dans le vestiaire, donc je vais leur laisser faire la suite de ça. Donc, ça commence lundi prochain. Et en même temps, on a nos équipes de la LDP qui ont joué des matchs la semaine dernière, là, dans la Ligue de développement provincial, on n'a qu'à penser à l'équipe U16 féminin qui a gagné 3-1 contre Panalinos, un club dans le coin de Montréal. On a l'équipe de U16 masculin qui a été défait 4-1. On a l'équipe du U15 masculin qui a annulé contre Lakeshore 1-1 aussi. Et notre U17 masculin, une défaite de 3-1 contre le CS Saint-Laurent. Donc, lundi, ça commence le TSR, tournoi des sélections régionales de partout au Québec. Il y a 35 équipes qui vont être là. Donc, ça va être très intéressant. J'invite les gens à aller voir ça dans différents terrains là, de la région à Saguenay.
Plusieurs centaines de joueurs. On parle de près de 700 joueurs qui seront présents. Hey, que tu y penses, là, 700 joueurs, les parents et tout ça, c'est des retombées économiques assez intéressantes. Pas seulement l'événement, mais pour la ville aussi.
Oui, c'est très intéressant. C'est pour ça que, on a eu la Coupe interrégionale il y a 2 ans. Oui. C'est une suite de ça. Le tournoi des sélections régionales, maintenant, est-ce qu'on sera dans l'avenir être en mesure de demander d'autres compétitions? Puis je crois que le comité organisateur est prêt pour mettre en place une belle compétition pour démontrer à Soccer Québec aussi qu'on est capable d'organiser une belle compétition oui. ici en région.
Benoît Lavoie, toujours un plaisir de parler du ballon rond avec toi chaque semaine.
Merci, Dom, puis bonne fin de semaine, puis on se prépare là pour notre tournoi des sélections. Bonne fin de semaine à tous.
Merci. Alors voilà, beaucoup d'action au niveau du soccer, autant au niveau international que régional. Donc, le tournoi des sélections qui débute ce lundi sur plusieurs terrains de Saguenay. Donc, on parle autour du Cégep, il y aura le Parc Saint-Jacques également, plusieurs terrains où il y aura vraiment des choses intéressantes et les équipes également de la région. Une petite pause et au retour, on termine l'émission avec le baseball.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Chez Arnold GM, nous avons votre camion. Du type aventureux, le Chevrolet Silverado. Du type techno-confortable, le GMC Sierra. Nos camions sont si puissants que rien ne pourra vous arrêter. Mais surtout, un financement à 0%. ArnoldGM.com.
Les voyageurs, une invitation de Jean Dumas Saguenay Mitsubishi qui vous offre un vaste inventaire pour livraison immédiate avec la meilleure garantie de l'industrie. Avec Jean Dumas Saguenay Mitsubishi, tracez votre voie de la bijouterie au rubis, place du Royaume, 30 ans d'expérience et de service après-vente, de spécialité radiateur, pneus et mécanique, 50 ans de fidélité, de le beau vitre d'auto, jamais plus de problème pour réparation ou changement de vitre d'auto, des dépanneurs chef maestro, le chef de file des dépanneur au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Prévaction, la mutuelle en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Un week-end déterminant attend les voyageurs et ça débute samedi dès 16h avec un programme double contre les Aigles de Trois-Rivières. Des matchs à ne pas manquer. Les voyageurs, la force du Nord.
Ici Annick Bilodeau. Le mercredi 24 juillet, je vous invite à être à l'écoute pour notre chronique avec Marc Tremblay de la boutique pour hommes 5 modes masculines qui est située au 2501 rue Saint-Dominique à Jonquière. Nous discuterons mode pour hommes, des tendances et des nombreux avantages de s'adresser à des personnes compétentes lorsqu'on parle de vêtements, des agencements possibles et des couleurs estivales. Madame, Monsieur, soyez attentifs à cette chronique sur la mode masculine dans l'émission Simplement Bilodeau sur les ondes du 92.5, mercredi 24 juillet à 9h10. 5 modes masculines, 2501 rue Saint-Dominique-Jonquière, une valeur sûre.
La saison du barbecue bat son plein chez Arachide Dépôt Jonquière. Épicez votre été avec le plus grand choix d'épices et de produits barbecue. Des bonbons de partout dans le monde. Les bonbons de votre enfance, vous les retrouverez chez Arachide Dépôt, boulevard Harvey, Jonquière.
Baseball.
Ben le baseball, on a eu quand même beaucoup d'activités cette semaine. Match des étoiles, autant dans les majeures, le concours de circuit, dans la Ligue frontière également. Il y a les voyageurs qui poursuivent leur saison aussi. Puis, il y a également le repêchage. Puis, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de Québécois qui tentent de faire leur place dans le baseball majeur. Pour en parler, on a Michel Bureau avec nous. Salut, Michel.
Salut, ça va bien, Dominique?
Ça va très bien. Toujours un plaisir de voir certains espoirs arriver quand même très tôt dans le repêchage. Puis le premier, écoute, il est arrivé au premier tour. En fait, deuxième tour, 58e au total par les Rays de Tampa Bay, Émilien Pitre. Hey, c'est le fun de voir des Québécois sortir plus tôt que des Québécois au niveau du hockey, que là, on le voit maintenant au baseball.
Écoute, Émilien Pitre, là, 58e rang, c'est la première fois depuis 17 ans qu'un Québécois est repêché aussitôt au repêchage du baseball des Ligues majeures. Puis c'est très le fun. Puis un autre Québécois aussi, Louis-Philippe Langevin, qui a été choisi au 105e rang par les Royals de Kansas City. Et ce que je remarque, ce que je constate également, c'est qu'on a une quarantaine de Québécois présentement un peu partout, là, soit dans les clubs écoles des équipes du baseball majeur ou encore dans les rangs universitaires. C'est fort impressionnant. Puis pour la petite histoire, les Québécois qui ont été repêchés plus tôt, il y a eu Philippe Aumont, qui a été choisi au 11e rang par les Mariners de Seattle en 2007. Il y a Noutepa Nanguidi, 36e rang, et Martin Mainville au 55e rang. Ce sont les trois joueurs qui ont été repêchés plus tôt que Émilien Pitre. Alors, c'est tout un exploit, puis on est très, très heureux. Tu as raison de dire que les Québécois, de plus en plus, on a de plus en plus de Québécois dans le baseball majeur, malgré le départ des Expos de Montréal. Puis ça, c'est rafraîchissant. Puis si on regarde, tu sais, les Québécois qui ont été repêchés, c'est à tomber sur le dos. Tu sais que Éric Gagné, et puis ça, tenez-vous bien, là, après les oreilles à papa, a été un choix, a été choisi en 30e ronde.
Hey.
OK. Par les White Sox de Chicago, il était le 845e choix au total. Pas pire pour un gars qui a gagné le Cy Young.
Pas pire, hein? C'est là qu'on voit, bien, il y a donc bien des rondes au niveau du baseball. Il y en a 50. C'est énorme. Il y a tellement. Il y a baseball majeur, t'as le 3A, t'as le 2A, t'as le A fort, t'as le A.
T'as le A fort, t'as le A faible. C'est beaucoup plus difficile, Dominique, pour un Québécois de percer au baseball majeur que pour un Québécois de percer au hockey, même s'il n'y a pas beaucoup de Québécois. Au hockey, malheureusement, là, il y en a déjà eu plein, mais là, il y en a de moins en moins. Ça, c'est regrettable. Mais, tu sais, Luc Robitaille, il a un 171e choix, puis il est devenu un des meilleurs
éléments ben
de l'histoire nationale de hockey. Mais Éric Gagné, 845e choix, puis il a gagné le Cy Young. Stéroïde ou pas stéroïde, là, on va lui donner ce qui lui revient à Éric Gagné. Là, quand même impressionnant. Puis Abraham Taureau, ça en est une autre surprise dans le baseball, qui a été un choix de repêchage assez lointain. 157e pour tout te dire, Abraham Taureau, un choix, un 157e choix. Des Astros de Houston, et souviens-toi que le match sans point de coup sûr de Justin Verlander à Toronto, mais c'est lui qui a permis à Verlander de réussir l'exploit, mais c'est Abraham Taureau qui avait fait le coup sûr victorieux dans cette rencontre-là. Et Abraham, ben, ça va très bien. Là, tu sais qu'il a été au mineur parce que à cause d'une blessure, il a frappé un grand chelem, puis un double, puis tout de suite, ben, il revient avec le grand club. C'était juste pour retrouver la forme, là, parce qu'il revenait d'une blessure, mais il connaît de beaux succès, lui aussi, dans le baseball majeur. C'est un autre Québécois qui se démarque. On a eu quand même plusieurs. Il y a eu Derek Aucoin, Denis Boucher également. Denis Boucher, quand même, 87 victoires en carrière dans le A, du 2A, 3A, puis dans les majeurs. Quand même, il a quand même connu une belle carrière, Denis Boucher, courte, mais une belle carrière quand même. Le regretté Derek Aucoin également. Édouard Julien a été un 539e choix des Twins du Minnesota en 18e ronde.
Il a démontré quand même de belles choses. Oui, on l'a retourné du côté du club école des Twins, mais écoute, il est capable de frapper la longue balle, il est capable de tirer son épingle du jeu. C'est une question de temps avant son retour dans les majeures.
Absolument, il va venir dans pas long. Russell Martin, en 2002, un 511e choix au repêchage.
La beauté de la chose, puis c'est pas seulement dans le baseball, Michel, c'est que... Il y a des joueurs qui vont éclore plus tôt. Il y a des joueurs qui vont éclore un peu plus tard. T'sais, ce que j'ai aimé cette année dans le baseball, dans le repêchage, dont le premier qui a été repêché, il joue toutes sortes de sports. Il a 21 ans. T'sais, on n'a pas attendu qu'il ait 17-18. Il a 21 ans. Lui, l'année prochaine, il va jouer des majeurs.
Ah, absolument. Puis la plupart des joueurs vont faire leur BC baseball. Mais la plupart, plusieurs viennent de la Ligue junior élite du Québec, comme Abraham Taureau, qui joue pour les Orioles d'Amsic. C'est quand même, on fait quand même un bon travail, puis c'est quand même fort encourageant, comme je te mentionnais tantôt, de voir autant de Québécois. Il y en a déjà eu 60, mais là, présentement, il y en a une quarantaine. C'est quand même pas mauvais. Espérons que ce nombre va aller en grandissant au cours des prochains mois. Chose certaine, les succès d'Édouard Julien, d'Abraham Taureau, ben, c'est une lueur d'espoir pour plusieurs Québécois. Alors, on va en suivre de près. Il y en a un autre aussi qui se démarque présentement, qui va très bien comme lanceur dans l'organisation des Rays de Tampa Bay. C'est Jérémy Pilon, qui a quand même 57 retraites sur 3 prises en 43 manches. Alors, ça va très bien pour lui également. De même que pour Olivier Boucher, un choix des Braves d'Atlanta, un petit gars qui a joué pour les Alouettes de Charlebourg. Alors, c'est encourageant de voir ça puis de suivre ça attentivement.
Je t'invite à suivre, tu parlais de la Ligue de baseball junior élite du Québec. On a un beau petit joyau chez les Voyageurs de Jonquière cette année. Ça a été le premier choix du repêchage pour les Voyageurs cette année. C'est un petit gars de 18 ans qui vient du côté de la région de la Beauce. Il s'appelle Jérémy Labonté. C'est un lanceur de 6 pieds 1. Il a 7 départs, 6 victoires, aucune défaite. Moyenne de points mérités à 2,43. En 40 manches et un tiers, il n'a donné que 10 buts sur balle.
C'est du baseball de calibre, ça aussi, là.
Oui, oui.
C'est du bon baseball. Puis si on regarde ce qui se passe dans les capitales, Louis-Philippe Petit également, qui est des Aigles de Trois-Rivières, qui va super bien, qui est dans le top 10 des meilleurs frappeurs de A-Frontier. Alors, c'est le fun, tu sais, parce que le baseball, veut pas, il y a une histoire, là, tu sais. On regarde Jackie Robinson, mais le baseball a une histoire au Québec. Puis c'est pas vrai que le baseball va tomber quatrième ou cinquième sport favori. Ici, dans la région de Portneuf, il y a beaucoup d'équipes de baseball. Puis, moi, je m'attends toujours, quand je joue un match de baseball, que ce soit n'importe quelle catégorie, je m'en vais voir ce qui se passe, parce que c'est un maniaque de baseball comme tu sais depuis toujours. T'sais.
On continue, on va parler, maintenant que le match des étoiles est terminé, on s'en va dans la deuxième moitié de la saison au baseball majeur. Quelles seront les équipes à surveiller, selon toi?
Ben, les Astros de Houston, tout particulièrement. Écoute, ils étaient à 12 matchs en dessous de 500 il y a quelques semaines. Et maintenant, ils ont une fiche de 50 victoires, 46 revers, deuxième dans l'Ouest. Ils sont à un seul match des surprenants Mariners de Seattle. Eux aussi, c'est une surprise. Mais les Astros m'impressionnent énormément. Moi, j'ai confiance que les Astros vont faire les séries d'après-saison. Il y a également dans la Ligue nationale une équipe, tu sais, on attend, ils n'ont pas de grosses vedettes. Année après année, malgré tout, ils sont tout le temps dans le top 3. Je parle des Cards de Saint-Louis.
Oui.
Tu sais, les Cards de Saint-Louis, ça va très, très bien. Ils sont deuxièmes dans la centrale. Les Pirates de Pittsburgh, dans la même division, tiennent le coup. Grâce à Paul Skeen, bien sûr, lanceur extraordinaire. Quel sang-froid, quelle balle rapide. Tout un potentiel, ce jeune homme-là. Ce qui fait en sorte que les Pirates, malgré un gros départ canon, là, ils sont quand même une fiche de 500. 48 victoires, 48 revers. C'est très respectable. Dans l'Américaine, une surprise de temps, les Royals de Kansas City.
J'allais justement t'en parler. C'est extraordinaire de ce qu'on voit des Royals. On ne les voyait pas du tout, là.
Absolument. Puis Bobby Witt Jr., bien sûr, qui est la figure dominante. Ils ont quand même une fiche de 52 victoires, 45 revers. Alors moi, je doute pas qu'ils vont se tailler une place dans les séries d'après-saison. C'est pour ça que pour les Blue Jays, c'est quasi mission impossible. Il y a trop d'équipes en avant d'eux, puis il n'y a pas d'esprit d'équipe. Dans l'Américaine, toujours, bien sûr, on le sait, les Orioles et les Yankees font bande à part. Mais il y a également d'autres surprises, puis des équipes à surveiller de très près aussi. Moi, j'aime bien ce que je vois présentement avec les Pirates de Pittsburgh, avec les Royals de Kansas City. C'est rafraîchissant pour le baseball de voir des équipes qu'on n'attendait pas, qui quand même parviennent à se faufiler, puis à nous offrir du très, très bon baseball. Alors ça, c'est très, très intéressant pour le baseball majeur. C'est pas toujours les mêmes qui gagnent ou qui dominent, même si les Yankees, on le sait, sont très, très, très puissants, oui. Très, très forts. Il y a d'autres surprises. Une autre surprise, moi, qui me surprend. Ben, les Phillies et les Braves, on s'y attendait. Hein?
C'est pas un secret.
De même que la lutte entre les Yankees et les Orioles, c'était à prévoir. Mais la grosse, grosse, grosse surprise, moi, je dirais, en tout et partout, c'est les Royals de Kansas City. Ils ont fait le bilan de toutes les équipes. Là.
Puis,
c'est les Royals.
Quand on parle de record de médiocrité, est-ce que les White Sox pourraient connaître un record de médiocrité? Et on parle de 27 victoires et 71 défaites. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis là, je regarde les statistiques. Il y a un lanceur qui a 7 des 27 victoires de l'équipe, Eddie Fed. Puis il y a un lanceur, Michael Soroka, qui, lui, a fini 6e pour le Cy Young en 2019, qui a une fiche d'aucune victoire et 10 revers. Les White Sox, c'est pathétique cette année.
Ben, ça commence à ressembler aux Expos de la première année, mais quand c'est une équipe de première année, faut-tu t'attendre à ça. Mais écoute, ça regarde, ça va peut-être être un record, mais pas un record enviable là, du côté des White Sox de Chicago. L'équipe favorite de Barack Obama.
En plus, c'est vrai, t'as raison.
Ben oui, l'équipe favorite de Barack Obama. Puis tantôt, je te parlais de Justin Verlander, ça. On ne le tuera pas, c'est toi, mais c'est un ami intime de Donald Trump.
Oh, en plus, dossier à suivre là-dessus. Hey.
ça ne me surprendrait pas de le voir à la convention lors du discours de Donald Trump, de voir Justin Verlander, qui joue même au golf avec ce personnage excentrique qu'est Donald Trump.
On est à quelques jours également, Michel, de la date limite des transactions. C'est sûr qu'il y a des équipes qui vont bouger, il y a des joueurs qui sont convoités, puis on le voit de plus en plus du côté des Blue Jays de Toronto. On n'a pas de chance de faire les séries cette année. On va probablement être vendeur. Qui, selon toi, on a déjà parlé dans les dernières semaines, va partir d'ici le 31 juillet?
Chris Bassett.
Chris Bassett, ah oui?
Oui, Chris Bassett, parce qu'il y a une grosse demande pour des lanceurs partants. Bassett... C'est pas pour moi, dans mon livre à moi, c'est pas un lanceur numéro un. C'est peut-être un bon deuxième, mais il pourrait donner un fier coup de main à des équipes de la Ligue américaine parce que moi, je pense, ou des équipes de la Ligue nationale, parce que moi, je pense que les Blue Jays de Toronto vont être vendeurs. Moi, je pense pas que cette équipe-là va rebondir, même s'ils affrontent les Tigers de Détroit à compter de demain. Même les Tigers ont une meilleure fiche qu'eux. Alors, il y a tellement d'équipes en avant d'eux que moi, je pense que les Blue Jays vont être vendeurs. T'es encore surpris que John Snyder soit encore à la barre de l'équipe et qu'Askins soit encore le directeur général de cette équipe-là. Je comprends absolument pas pourquoi. Mais chose certaine, moi, je pense que Bassett et Kikuchi seraient susceptibles d'être impliqués dans des transactions du côté des Blue Jays. C'est des gros salaires aussi en même temps. Alors, ça va baisser un peu la masse salariale. Moi, j'ose espérer que les Blue Jays vont au moins donner la chance à Leo Jiménez, à Ernie Clemens puis à Horwitz de jouer plus souvent. Puis peut-être que Bichette aussi pourrait, selon moi, il y a encore une bonne valeur marchande. Il connaît une mauvaise saison, mais on le sait, Bichette en carrière a connu quand même une très belle carrière jusqu'à maintenant. Oui. Lui aussi, mais Vladimir Guerrero, d'après moi, il est à Toronto pour y rester.
Penses-tu qu'il va signer une prolongation de contrat à fin de saison?
Mais ça crée un malaise au sein de l'équipe.
Oui, hein?
Le fait que les Blue Jays aillent devant l'arbitrage pour régler le cas de Vladimir Guerrero, tu sais, quand tu penses que George Springer a un meilleur salaire que Vladimir Guerrero, ça crée un malaise, hein, dans le vestiaire, parce qu'il faut son pesant d'or. Quand il a encore une bonne saison, Vladimir, pas la meilleure de sa carrière, mais la deuxième moitié, je pense qu'il va être encore meilleur. Mais c'est trop le meilleur joueur chez Blue Jays. Ils ne peuvent pas le transiger, puis surtout qu'ils lui donnent un contrat à long terme. Mais Bichette, honnêtement, moi, je laisserais partir Bichette, Bassett puis Kikuchi. Moi, je pense que c'est trois joueurs qui pourraient changer d'uniforme à la date limite des transactions le 30 juillet.
Puis, en échangeant ces trois vétérans-là, ben, tu vas chercher une banque de relève et de d'espoir quand même assez intéressant pour les prochaines années.
Absolument. Tu as besoin de receveurs. T'sais, ils ont laissé partir un prospect comme receveur. Quelle mauvaise idée. Moi, je pense que derrière le marbre, les Blue Jays doivent aller chercher absolument un bon receveur, un jeune qui a de l'avenir. Cette fois-là, gardez-le. J'espère qu'ils vont le garder. Et il y a aussi des lanceurs partants. Bien sûr, c'est une dernière erreur dans le baseball. Puis des bons lanceurs partants, ça court pas les rues. Les Blue Jays n'ont toujours pas. On peut pas dire que les Blue Jays ont un lanceur partant numéro un vrai non. Numéro un. Ouais. Gossman, peut-être. Mais encore là, c'est pas un vrai numéro un. Comme
manque de constance.
Comme Pedro Martinez l'était, comme Steve Carlton, comme Tom Seaver, comme tous ces grands lanceurs partants, comme Justin Verlander, t'es sûr qu'un des passes, si deux sont dans le game, t'es sûr qu'ils vont te donner au moins 7 manches par départ, t'sais. Mais les Blue Jays n'ont pas un vrai lanceur numéro un. Alors, il faut qu'ils développent des lanceurs partants. Il faut qu'ils aillent chercher des lanceurs partants. Puis un bon receveur, je pense que c'est une priorité du côté des Blue Jays en ce moment.
Est-ce que du côté de Rodriguez, qu'on a signé à gros prix, Ariel Rodriguez risque de devenir un bon lanceur premier dans les prochaines années?
C'est pas une vraie recrue en passant, mais non. C'est quand même une recrue là, dans les faits. Mais
il y a 27 ans.
Il a quand même roulé sa bosse au Japon puis dans différentes ligues. Mais à date, il a connu un ou deux bons départs solides, là. Il faudrait attendre de voir quelques départs avant d'avoir une meilleure idée de quoi il en retourne avec Ariel Rodriguez. Mais effectivement, il fait partie des plans comme lanceur partant. Donc, les Blue Jays, je pense qu'ils ont besoin de lanceur partant. Ariel Rodriguez, pour l'instant, puis dans les clubs écoles, il n'y a pas grand-chose à vrai dire. Alors, je pense que c'est une priorité. Mais pour l'instant, je pense qu'on pourrait dire qu'éventuellement, Ariel Rodriguez va être le lanceur partant numéro un. Maintenant, il faudrait qu'il donne plus de départs. Du côté des Blue Jays. Alors, mais honnêtement, là, c'est très décevant comme saison. Tu parlais de la saison catastrophique des White Sox. Bien, pour les Blue Jays, avec les attentes qu'on avait, c'est une saison catastrophique.
On va parler un peu statistiques et de la course au circuit. Actuellement, c'est Aaron Judge qui mène avec 34 longues balles. Mais derrière, il se fait souffler par Shohei Ohtani qui en a 29. À quoi va ressembler cette fin de saison dans la course au circuit? Puis même derrière, là, je pense à Gunnar Anderson qui est surprenant avec 28. Ozuna qui en a 26. Pense qu'on va se rendre à... Il va y avoir quelques cogneurs de 50 circuits cette année.
Absolument. Puis moi, j'aime bien beaucoup Gunnar Anderson avec les Orioles. Moi, j'aime beaucoup les Orioles de Baltimore. J'aime cette équipe-là est complète. On parlait de surprise dans l'Est américaine. J'avais oublié les Red Sox de Boston.
T'as raison.
Une surprise, les Red Sox de Boston. C'est l'équipe qui me manquait. Tantôt, je me demandais laquelle équipe me manquait à mon palmarès. C'était les Red Sox de Boston. Quelle saison ils connaissent? Personne ne s'y attendait. Mais pour revenir à ce qu'on disait, derby du circuit, des circuits, écoute, Gunnar Anderson, quand même, c'est surprenant, mais je pense qu'Aaron Judge va coiffer Ohtani au fil d'arrivée. Ohtani en a frappé tout un match des étoiles, hein, toute une claque.
Oh oui.
Mais Aaron Judge, écoute, 34 circuits déjà. Honnêtement, là, si j'avais une équipe, puis j'avais choisi entre Ohtani et Aaron Judge, même si Ohtani lance, mon cœur balancerait du côté d'Aaron Judge, parce que non seulement c'est un bon... J'ai lu des choses sur lui sur Sporting News. C'est aussi un être humain, puis un gars exceptionnel, qui n'a pas eu une vie facile, étant jeune, qui a beaucoup de caractère, que les gars apprécient énormément dans le vestiaire. Alors moi, je pense que je choisirais pour répondre à la question. Tu sais, quand on a eu la discussion avec Michel me demandait lequel des deux. Bien là, je suis convaincu. Ce serait Aaron Judge, après ce que j'ai lu sur lui dans Sporting News. Écoute, c'est un type extraordinaire, puis quand il se met en marche, écoute, 34 circuits. Il va finir l'année avec 60 quelques circuits, peut-être battre le record de Roger Maris.
Et un que moi, j'ai bien hâte de suivre, c'est au niveau des courses, parce que c'est un joueur qui est encore le vieux baseball, c'est Élie de la Cruz. Première saison, 35 buts volés. Cette année, il y en a 46. C'est incroyable, là. Il est rapide comme tout.
Ah non, écoute, c'est une révélation, Élie de la Cruz. il est spectaculaire. Écoute, non seulement avec ses souliers colorés et son style vraiment qui sort de la norme, mais c'est aussi un joueur extraordinaire. C'est un gars qui est capable de frapper des circuits et capable de voler des buts comme De La Cruz le fait. C'est une denrée rare dans le baseball majeur de nos jours. C'est un joueur complet. Fait penser beaucoup à Barry Bonds. Honnêtement, ça va être tout un joueur pour des années à venir pour les Reds de Cincinnati. Les Reds ont quand même une bonne base solide. Ça, c'est une autre équipe qui pourrait se prendre en deuxième moitié de saison avec De La Cruz.
Puis moi, de ce que je remarque dans les statistiques, il n'a jamais été repêché, cet enfant-là.
Ben non, il n'a jamais été repêché. Mais,
jamais?
Tu sais, c'est incroyable, hein? Il y a des fois, ça demande les dépisteurs ce qu'ils font. Il y en a qui donnent au gaz. Mais c'est un joueur. Tu sais, moi, tu vas voir un match de baseball, tu le vois sur le terrain, tout de suite, t'accroches, là, tu sais.
Ben oui.
Tu vois que ce gars-là est dans une classe supérieure. Tu vois qu'il est d'une classe à part aussi. Alors, non, c'est tout un joueur. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui encore au match des Étoiles. Il y a beaucoup de détermination aussi, tu sais. Il veut, il a le désir de vaincre. Alors, il est complet. C'est un nom à retenir pour des années dans le baseball majeur.
Michel Bureau, toujours un plaisir de jaser baseball avec toi.
Ben oui, moi de même, puis au plaisir de te reparler, Dominique.
À la prochaine.
Merci, bye.
Alors voilà, c'est ce qui conclut le vestiaire pour aujourd'hui, ce jeudi 18 juillet. Dans quelques instants, c'est le retour du 92.5 avec Ewick, également Jean-Michel et Maïna. On se donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez... L'Étoile Dodge!